tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Chers auditeurs de Tranche de Vie, quitter son pays en guerre parce que on a tout perdu, parfois y compris les siens, et parce que peut-être on est persécuté en raison de sa religion, en raison de ses opinions politiques, en raison même de son orientation sexuelle, c'est toujours un arrachement, c'est toujours une épreuve terrible. Et lorsqu'on arrive dans un pays étranger, qu'on n'a pas forcément choisi, pour y mener une existence plus tranquille, eh bien, on affronte des problèmes souvent très difficiles à résoudre, d'installation, d'intégration. Les centres d'accueil des demandeurs d'asile sont là pour aider ces personnes à leur installation dans notre pays. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir deux travailleuses sociales du centre d'accueil des demandeurs d'asile de France Terre d'Asile, qui sont disposés à répondre à mes questions sur leur travail, sur les conditions dans lesquelles elles le font, et puis aussi sur leur profession elle-même, comment elles l'ont choisie, comment elles la vivent. Malika et Charlotte, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de RLP. Malika, bonjour. Depuis combien de temps travaillez-vous au centre d'accueil des demandeurs d'asile de France Terre d'Asile ?
Bonjour, donc moi ça fait 8 ans que je travaille à France Terre d'Asile. J'étais d'abord sur l'antenne qui était située à Bergerac et ensuite j'ai été mutée sur le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Périgueux.
Et vous, Charlotte ?
Donc bonjour à tous. Donc moi ça fait depuis avril 2014 donc que je suis au centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Périgueux.
Alors ce travail, comment l'avez-vous choisi ? Est-ce que vous l'avez choisi ? Est-ce que vous avez une formation particulière pour ça ?
Alors donc moi ça s'est fait suite à l'intervention donc de l'ancien directeur du CADA donc monsieur Nogaro qui était intervenu donc dans le centre de formation où je faisais donc mon BTS. Et donc, il est venu nous présenter un petit peu le CADA. Et c'est vrai que suite à son intervention, ce public et ce type de travail m'a beaucoup intéressée. Et j'ai eu l'opportunité après d'avoir une proposition d'emploi dans le CADA. Et c'est comme ça que je suis arrivée au CADA France Terre d'Asile.
Alors, Malika, vous, comment ça s'est passé ?
Moi, je suis partie en mission humanitaire avec une ONG au Chili, où j'ai travaillé avec des migrants pendant 2 mois. Et du coup, quand je suis revenue en France, j'ai essayé de me réorienter dans mes études et de voir quel pouvait être un travail similaire en France. Et du coup, j'ai découvert les CADA.
Vous aviez déjà amorcé des études qui vous orientaient vers le travail social ?
Non, j'ai un master 1 en psychologie et ensuite, d'accord, je me suis orientée vers l'enseignement. Et finalement, j'ai un master 2 en géographie sur les migrations internationales. C'est un master vers lequel je me suis orientée pour pouvoir travailler en CADA, effectuer mon stage en CADA et après valoriser l'expérience que j'aurais eue et mon master pour trouver, mais je ne suis pas diplômée travailleur social.
Alors, Charlotte, vous, votre BTS, c'était déjà orienté vers le travail social ?
Oui, voilà, tout à fait. Oui. Moi, j'ai fait donc un BTS suivi donc d'une année pour avoir le diplôme d'État pour obtenir ce diplôme et pouvoir être travailleur social. Tout à fait.
Alors donc, vous voyez que, chers auditeurs, qu'on peut arriver au CADA par différentes voies. Il y a quand même un fil directeur qui est un intérêt quand même pour les autres et puis pour des causes difficiles auxquelles les autres se trouvent confrontés. Quel est votre travail au CADA? Quelle est la fonction de ces centres d'accueil de demandeurs d'asile? Est-ce que vous pouvez nous dire, l'une et l'autre, quelles sont vos tâches au CADA? Je commence par Malika.
On va dire que c'est tout ce qui concerne l'accompagnement global du demandeur d'asile pendant toute la durée de la procédure de la demande d'asile. Chaque demandeur d'asile que l'on reçoit dans notre centre va avoir deux référentes. Une référente qui va s'occuper de l'accompagnement social global, donc qui va accompagner dans les démarches au niveau de la scolarité, de la santé, de l'insertion en cas de réponse positive. Et une autre intervenante sociale qui va s'occuper d'accompagner le demandeur d'asile dans toutes les démarches liées à la demande d'asile. Donc la préparation aux entretiens, la rédaction du récit de vie, la recherche, l'aide à la recherche d'un avocat si nécessaire et tous les écrits qu'il faut faire.
Alors là, ça fait beaucoup de choses et on va essayer de débrouiller cet écheveau quand même qui est très divers. Charlotte, les demandeurs d'asile que vous recevez, ce sont des gens qui sont arrivés en France depuis combien de temps en général?
Alors après, c'est très variable, mais en général, ça peut être de quelques mois à parfois plusieurs années avant d'avoir aussi une place en CADA.
Ah bon? Et alors, qu'est-ce qu'ils deviennent dans l'intervalle?
Eh bien alors, ça dépend des situations. Il y a certaines personnes qui sont donc dans d'autres structures d'hébergement d'urgence en attendant. Donc il y en a qui sont aussi parfois chez des compatriotes en attendant d'avoir une place. Et d'autres qui sont à l'hôtel 115 ou parfois même dans des camps, comme on voit ceux qui sont notamment à La Chapelle à Paris.
Ah oui, alors là donc vous parlez toutes ces situations dans lesquelles il n'y a aucun encadrement administratif de ces personnes.
Ben, disons qu'il peut y avoir une aide, mais elle est vraiment très très succincte. Ça peut être pour aider les personnes rapidement à comprendre un courrier, mais c'est loin d'être l'accompagnement global que nous on propose en CADA.
Ces personnes, les personnes dont on parle Charlotte, qui sont dans cette situation, sont des personnes qui sont dans l'illégalité, qui n'ont pas de, qui n'ont absolument aucun statut.
Non, en fait, toutes les personnes que l'on a dans notre centre sont en situation régulière.
Oui, à partir du moment où elles ont été prises en charge par le CADA. Mais avant.
Si, ce sont quand même des personnes qui sont dans la régularité, puisque ces personnes-là sont passées, pour beaucoup en tout cas, sont passées par la préfecture qui leur a délivré donc une attestation de demande d'asile, comme quoi elles ont déposé l'asile en France. Donc elles ont le droit d'être régulièrement sur le territoire français.
D'accord. Mais c'est à elles de se débrouiller pour se loger, pour faire éduquer leurs enfants, pour se préparer à affronter l'OFPRA, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des démarches que doivent suivre les demandeurs d'asile à partir du moment où ils sont pris en charge par un CADA?
Au niveau de la demande d'asile?
Oui.
Alors au niveau de la demande d'asile, ils peuvent arriver en fait à différentes étapes de leur procédure de la demande d'asile quand ils arrivent au CADA. Donc si on prend au début de la demande d'asile, au tout début, s'ils arrivent chez nous, on peut avoir éventuellement le dossier de demande d'asile à faire avec eux. Généralement, il est déjà fait quand ils arrivent, mais ça arrive qu'on ait à le faire. Dans ce cas-là, on remplit avec eux la première partie du dossier, où c'est des renseignements assez généraux sur la composition familiale, l'état civil, la nationalité, les frères et sœurs. Et ensuite, il y a une deuxième partie, là c'est la partie la plus importante, qui repose sur le fond de la demande d'asile, à savoir pourquoi est-ce que les personnes viennent en France, pourquoi est-ce qu'elles sont en danger dans leur pays et pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas rentrer chez elles.
Tout ça, c'est pour les préparer, comme je disais, à se présenter devant l'OFPRA qui va juger de la validité de leur demande.
En fait, ce dossier est envoyé à l'OFPRA, l'OFPRA reçoit ce dossier et avec ce dossier, il va convoquer le demandeur d'asile à un entretien. Et cet entretien va permettre à l'officier de protection, la personne qui travaille à l'OFPRA, d'approfondir les raisons pour lesquelles le demandeur d'asile vient en France, juger aussi la véracité de l'histoire. Et nous, notre travail, ça va être de les accompagner à la préparation de cet entretien. Donc, leur expliquer comment va se dérouler l'entretien, quel type de questions peuvent être posées.
Alors, je vais me retourner maintenant vers Charlotte pour lui demander d'abord de nous définir, nous expliquer ce qu'est l'OFPRA, qu'on a cité à plusieurs reprises, mais sans dérouler le sigle. Et puis, j'aurai des questions aussi à lui poser sur des questions complètement terre à terre sur l'accueil des migrants dans votre centre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'OFPRA ?
Alors déjà, l'OFPRA, donc, c'est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Et donc, c'est un établissement donc, public national qui est le seul habilité donc, à reconnaître la protection en matière d'asile. Et donc, cet OFPRA, il n'en existe qu'un seul en France et il se situe à Paris.
Merci. Alors maintenant, on sait ce qu'est l'OFPRA. C'est cette instance devant laquelle se présentent les demandeurs d'asile, une fois qu'ils ont été pris en charge par les CADA et préparés justement à défendre leur cause devant l'OFPRA qui va juger de la recevabilité de leur demande d'asile. Maintenant, la question que j'aurais voulu poser à Charlotte, c'est les demandeurs d'asile que vous recevez. Certains, vous nous avez dit, peuvent être en France depuis déjà plusieurs années, mais ceux qui vous arrivent comme ça, directement ou presque directement des pays d'où ils viennent, ça doit quand même poser des problèmes assez difficiles de communication. Comment faites-vous quand vous recevez, par exemple, toute une famille dans laquelle il y a des enfants à scolariser ou non, et qu'il faut loger, et qu'il faut mettre à l'abri.
Alors déjà, il faut savoir que nous, les personnes qui sont accueillies au CADA, donc, disposent d'un hébergement aussi, donc d'un logement. Donc chaque famille a un logement autonome, et les personnes qui arrivent seules, donc voilà, parce qu'on accueille aussi des messieurs ou des dames qui arrivent seules, sont logées donc en cohabitation avec d'autres personnes, donc soit par 3 ou 4, donc les hommes entre eux et les femmes entre elles. Donc voilà, donc ils sont dans des logements qui sont sur Périgueux et les alentours proches. Et ensuite, donc quand ils arrivent, évidemment, il y a la barrière de la langue qui est la plus grosse difficulté aussi que l'on rencontre. Donc nous, au CADA, on a la chance donc d'avoir un budget pour de l'interprétariat. Donc on passe par des interprètes uniquement par téléphone, parce qu'il faut savoir que on n'a pas d'interprète physique, c'est très compliqué. Donc du coup, ces interprètes, on leur fait appel exclusivement pour préparer le dossier de demande d'asile, parce que pour toutes les démarches sociales, on n'a pas les moyens de faire appel à ces interprètes. Donc du coup, souvent, on se débrouille avec Google Traduction, ou on fait aussi les mimes. Enfin voilà, on se débrouille un petit peu comme on peut. Et après, les enfants, il faut savoir que dès qu'ils ont l'âge d'être scolarisés, tout de suite, on va faire les démarches pour que les enfants soient scolarisés le plus rapidement possible, en sachant que c'est possible jusqu'à 16 ans, car après 16 ans, c'est très compliqué pour scolariser les enfants en France.
Alors là, Charlotte vient de rappeler une règle qui est propre à notre pays et dont on peut s'honorer, à savoir qu'un enfant, un mineur étranger qui arrive dans notre pays, eh bien, obligatoirement, il est assuré d'être scolarisé ou de poursuivre sa scolarité s'il l'avait déjà entamé ailleurs. Maintenant, ce que vient de dire Charlotte, ça veut dire que vous allez entreprendre probablement des tâches qui sont des tâches pour faciliter l'intégration de ces personnes. Alors, que faites-vous en matière notamment de langue et puis d'adaptation aux nouveaux pays de demandeurs d'asile que vous recevez, Malika?
C'est vrai qu'au niveau de l'intégration, le premier élément à avoir, de mon point de vue, c'est de parler la langue du pays dans lequel on est. Donc, il y a des cours de français qui sont donnés dans notre centre. En complément, on peut les orienter aussi vers d'autres structures pour qu'ils puissent suivre plus de cours de français, et on a aussi des personnes bénévoles qui peuvent intervenir dans les familles pour, par exemple, les familles monoparentales dont la maman vient d'avoir un bébé et elle ne peut pas se déplacer pour aller au cours de français. Là, dans ce cas-là, des bénévoles peuvent venir dans les familles et leur donner des cours individuellement.
Et à côté de l'apprentissage de la langue, bon, j'entends bien qu'il y a des choses qui sont acquises, qui peuvent être acquises en même temps que la langue au fur et à mesure qu'on arrive à sa maîtrise. Mais est-ce que vous avez, par exemple, des formations ou un encadrement pour expliquer aux gens quelles sont les mœurs du pays, quelles sont les choses à respecter, les éléments de comportement en public?
On met en place aussi au CADA, justement, Pour resituer, on accueille 135 demandeurs d'asile et on est 9 salariés. Donc 7 intervenantes sociales comme Charlotte et moi, une secrétaire comptable et le directeur de l'établissement. Et,
Les gens qui vont vraiment au contact, vous êtes 7 pour 135 personnes. 135 personnes, y compris les enfants.
Oui.
Ça fait lourd hein, quand même.
Et donc on organise plusieurs fois dans l'année des ateliers d'information, donc c'est les intervenantes sociales qui les animent, pour expliquer un petit peu le fonctionnement en France. Donc ça peut être des ateliers sur la santé, le système de santé, comment ça marche, qu'est-ce que c'est qu'un médecin traitant, qu'est-ce que c'est qu'une ordonnance. Ça peut aussi être sur le logement. On a des ateliers sur le budget, la gestion du budget. Il y en a pour lesquels c'est compliqué, donc on explique un petit peu comment monter son budget. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La scolarité, expliquer un petit peu le système scolaire en France, parce que c'est très différent selon les pays, donc que les parents se retrouvent un peu, rappeler qu'il y a des devoirs à faire... Voilà.
Est-ce que, alors là vous avez parlé des familles monoparentales, est-ce que vous avez une majorité de familles monoparentales qui sont en charge, dont la personne qui est en charge est une femme ?
Alors on n'a pas une majorité de familles monoparentales, mais c'est vrai que les familles monoparentales par contre que l'on accompagne au CADA sont essentiellement des femmes, donc seules avec parfois ça peut aller donc de 2 à 3, 4 enfants.
4 enfants, voilà. Oui. Bon, alors Malika a commencé à donner quelques chiffres. Est-ce que vous pouvez maintenant nous donner un petit aperçu de la provenance des personnes qui sont prises en charge chez vous ?
Alors, donc actuellement, hein, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est quand même très variable suivant les années aussi, mais actuellement, donc les nationalités qui sont présentes au CADA, on retrouve essentiellement donc des messieurs seuls donc d'origine afghane. On a aussi des messieurs donc soudanais. Et après, au niveau des familles, donc on a des familles d'Irak, de Syrie, Turquie, du Nigeria. On a aussi des familles d'Égypte, d'Albanie, du Bangladesh. Enfin voilà, on peut constater qu'on a vraiment des gens qui viennent de partout dans le monde et notamment beaucoup de personnes d'Afrique aussi.
En plus des Soudanais. Alors, ces personnes, est-ce qu'elles ont des occasions de se rencontrer, d'échanger entre elles ?
Alors, les occasions d'échanger au CADA, ça va être pendant les cours de français. Pendant les ateliers d'information, ça peut aussi être dans les couloirs en attendant les rendez-vous qu'ils ont avec leurs intervenantes sociales. Il y a des activités qui sont menées aussi à l'extérieur par le CADA. Et ça, c'est plus Charlotte qui va en parler.
Oui, d'accord. Bon, et ça se passe bien, ces contacts, pas de conflits
Moi, ce que je trouve d'assez beau, c'est qu'il y a des fois des nationalités qui s'entendent pas ou ça peut être compliqué. Et notamment par les cours de français, moi, je trouve qu'il y a une cohésion qui se fait où on va avoir... Ça peut être assez... ça fait bizarre, par exemple, quand on est dans un couloir et qu'on voit un monsieur soudanais qui est en train de parler en français avec un monsieur afghan pour lui expliquer quelque chose. Et c'est vrai que c'est des situations qu'on ne voit pas partout et c'est beau comme situation à voir.
Alors là, je vais revenir vers Charlotte qui doit nous parler d'un aspect de l'intégration. Est-ce que vous pouvez me rappeler ce que c'est ? Là, j'ai déjà oublié.
Alors oui, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en plus donc, des missions que Malika a citées tout à l'heure au CADA, nous, on met en place aussi donc, des animations.
Ah, voilà.
Donc voilà, parce qu'il faut savoir qu'une des choses qui est les plus difficiles pour les demandeurs d'asile, c'est d'occuper ce temps. Parce qu'il faut savoir que le temps de la demande d'asile, c'est très long et que ces gens-là ne peuvent pas travailler. Ils n'ont pas d'autorisation de travail. Donc, il faut pouvoir occuper ce temps. Et donc, nous, on a décidé donc, de mettre en place donc, des ateliers. Donc, ça peut être des ateliers créatifs donc, pour les enfants, mais aussi pour les adultes. On met aussi en place des sorties culturelles. Donc, notamment, on va parfois à des concerts, des spectacles... L'été, on fait des sorties. Donc, par exemple, l'année dernière, on est parti au parc du Bourna tous ensemble. Et on a pris le parti aussi de faire une sortie que pour les personnes seules, parce qu'on sait que parfois, c'est compliqué d'être avec les familles, puisqu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui arrivent seules, mais qui ont laissé derrière elles une famille au pays.
Donc, ça peut être douloureux, oui.
Voilà, tout à fait. Donc là, ça leur permet de se retrouver entre eux et de pouvoir faire plus ample connaissance. Donc l'année dernière, on les a amenés visiter la grotte de Villars et on a fait du vélo rail. Et c'est vrai qu'on remarque que c'est des moments en fait qui sont vraiment très importants pour ces familles parce que ça leur permet de s'évader un peu de cette procédure de demande d'asile qui est très lourde. Et
qui peut être très longue aussi.
Ah, tout à fait, oui, qui peut parfois durer sur plusieurs années. Ouais. Et donc, c'est vrai que ça leur permet de s'évader, de penser à autre chose, et puis de tout simplement aussi de faire des choses qu'elles n'ont jamais faites dans leur vie. Et du coup, c'est vrai que, comme disait Malika, de voir parfois aussi ces sourires et ces rires chez ces personnes-là qui sont parfois détruites par leur passé,
Et vous les voyez se reconstituer, vous voyez certaines d'entre elles se reconstituer, recommencer à mener une vie normale. Parce que ça, j'imagine, on n'en a pas beaucoup parlé encore, mais vous avez parlé des sourires. Quels sont les retours que vous avez, vous, en tant que travailleuse sociale? Qu'est-ce qui vous gratifie vraiment dans ce travail? Est-ce que vous arrivez à développer avec les personnes dont vous vous occupez des relations amicales
Disons que moi, ce que je dirais, la plus grande satisfaction que l'on a dans notre travail, c'est déjà quand les personnes que l'on a accompagnées pendant des mois, voire plusieurs années, obtiennent la protection. Et de voir sur leur visage ce soulagement qui est, je pense, on ne peut pas réaliser à quel point c'est de se dire que ces familles se disent « enfin, ça y est, on a reconnu leur histoire, elles vont enfin pouvoir s'installer durablement, avoir une vie sereine et plus tranquille pour leurs enfants ». Moi, je me souviens d'une famille qui s'est mise à pleurer tellement ils étaient heureux de se dire que ça y est, enfin...
Sentir enfin à l'abri. Mais à l'inverse, Malika, il doit y avoir quand même des moments difficiles parce que les demandes d'asile, elles ne sont pas toujours agréées. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Est-ce que c'est à vous, personne qui encadre ces demandeurs d'asile, de leur annoncer les mauvaises nouvelles?
Oui, quand ils reçoivent, donc on a parlé de l'OFPRA tout à l'heure, qui est la première instance qui juge les demandes d'asile. L'OFPRA peut donner soit une réponse positive, soit une réponse négative. Et si c'est une réponse négative, les demandeurs d'asile ont la possibilité d'effectuer un recours, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec la décision de l'OFPRA. Et ils effectuent un recours devant ce qu'on appelle la CNDA, qui est la Cour nationale du droit d'asile.
Donc, c'est là que vous intervenez pour leur fournir un avocat cas échéant.
Voilà, ça va être le même travail qu'au niveau de l'OFPRA. On leur explique quelle est la possibilité de faire un recours ou non, comment ça se passe. Et à la CNDA, ils peuvent être accompagnés d'un avocat. C'est fortement conseillé. Donc nous, on va les accompagner là-dedans. Et à la suite des démarches, à la suite d'un entretien, ils ont la réponse à leur demande d'asile. Et cette fois, c'est la réponse définitive. Et dans ce cas-là, ils reçoivent la réponse au CADA et c'est à nous, quand on les accompagne dans leur demande d'asile, de leur lire la réponse et du coup de leur expliquer si c'est positif ou négatif. Et si c'est négatif, c'est définitif, donc ça veut dire que c'est la fin de tout. C'est-à-dire c'est...
Et de leurs espoirs et puis... Et donc à ce moment-là, ils sont obligés de quitter le territoire comment ça se passe?
Alors nous, on leur explique donc la réponse, que c'est une réponse négative. Ils ont une fin de prise en charge au niveau du CADA. Ils ont plus d'hébergement, plus d'accompagnement, plus de récépissés, plus d'allocations qui leur étaient versées tous les mois.
Récépissé, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez préciser.
Le récépissé, c'est ce qui leur permet de rester sur le territoire légalement. Donc l'attestation de demande d'asile dont parlait Charlotte tout à l'heure. Donc c'est vrai que c'est très compliqué pour les familles et en effet, après, il y a l'obligation de quitter le territoire français qui arrive s'ils ne font pas des demandes de régularisation sur d'autres fondements. Mais ça, après, ça ne concerne plus le CADA parce que le CADA, comme on disait, c'est un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Donc nous, on s'occupe de la demande d'asile.
Le temps passe trop vite. Et comme on le fait traditionnellement dans cette émission, je vais maintenant vous demander de me dire si, en dehors du travail social, vous avez d'autres passions et d'autres activités pour échapper un petit peu à vos soucis professionnels quotidiens. Charlotte.
Oui, alors tout à fait. Alors moi, personnellement, moi je fais en dehors du CADA, donc je fais donc du sport, notamment des activités comme la piscine. Je fais aussi de la danse. Et après, j'aime beaucoup aussi voyager pour toujours, quand même, quelque part, rencontrer d'autres cultures et découvrir de nouveaux horizons.
Malika, vous ?
Moi, c'est un petit peu pareil, du sport aussi et beaucoup de voyages.
Du sport pour s'éclaircir un peu l'esprit et puis rester en forme. Enfin, vous êtes jeune, donc à la limite, vous n'en auriez pas besoin. Mais bon. Et puis les voyages, quels sont vos derniers voyages et quels sont vos projets ?
Le dernier voyage que j'ai fait, moi, c'était au Vietnam l'année dernière. Et projet, Sri Lanka l'année prochaine.
Ah, vous êtes attirée par l'Asie ?
Pas que, je suis allée aussi en Amérique latine,
oui,
un petit peu en Afrique.
Vous avez parlé de votre expérience chilienne, mais pour l'instant c'est l'Asie. Alors.
Pour le moment, voilà.
Et vous Charlotte ?
Eh bien alors, l'année dernière, je suis allée à Madagascar. Et cette année, en effet, moi, j'aimerais bien justement aller dans un pays asiatique parce que je ne connais pas encore. Donc je ne suis pas totalement fixée, mais peut-être le Kyrgyzstan, pourquoi pas.
L'Asie centrale. Malika, Charlotte, nous sommes arrivés au bout du temps qui nous est imparti, malheureusement. Merci de tout ce que nous avez appris. Merci d'avoir détruit au passage un certain nombre de préjugés qui sont, comme souvent, produits par l'ignorance sur votre activité, sur ce à quoi servent les CADA, qui sont, rappelons-le, des centres d'accueil. Deux personnes dans des situations dramatiques, mais un encadrement qui se fait entièrement sous le contrôle de l'État. Au revoir.
Au revoir et merci de nous avoir écoutés.
Au revoir.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.